Amen. Merci beaucoup, Lise. Elle a toujours lu pour moi quelque part où je suis en train de donner conférence ou quoi. Merci beaucoup. Alors, si nous voyons ici, nous avons aussi l'image du cœur qui représente l'amour.
Je pense qu'il y a quelque chose qui nous attend.
Et de quoi il s'agit ici, de ce texte que nous venons de lire, frères, sœurs, chers frères et sœurs? Paul, dans le texte de ce matin, il prie ce que nous voyons dans l'image, pour voir la réalisation de l'amour de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église. Et ce passage, c'est la deuxième prière, une prière d'intercession en faveur des Éphésiens. Et la première prière, ça se trouve dans le chapitre 1er, à partir du 15e jusqu'au 19e verset. Cette prière-là, de l'intercession que Paul avait adressée en faveur des Éphésiens. Et cette deuxième prière de Paul en faveur des Éphésiens, c'est ce qui se trouve ici dans le texte que nous venons de lire, qui se trouve en Éphésiens au chapitre 3, à partir du 14e jusqu'au 21e verset. Et dans cette deuxième prière de l'intercession, c'est là que nous venons de voir Paul qui adresse une prière. Il demande à Dieu, son Père, qu'il appelle son Père, de faire des choses qu'il demande pour les Éphésiens. Et il demande parce qu'il avait compris des merveilles que Dieu avait faites. Et c'est comme cela que Paul voudrait, il est en train de prier à son Père, que son Père fasse ce qu'il demande. Et c'est ça la réflexion de ce matin. Nous voulons entrer avec Paul ensemble pour comprendre sa demande, pour comprendre la réalisation de cette demande et pourquoi il le fait. Si nous pouvons résumer ce que Paul était en train de demander, il n'a pas demandé beaucoup de choses. Il a demandé que les Éphésiens soient fortifiés. Ah. Encore une fois de plus. Excuse-moi, Mylène. Mylène m'avait parlé l'autre fois qu'il fallait m'approcher du micro. C'est bon. Alors, Paul demande des choses. Comprenons-les et suivons-les. Premièrement, Paul. Il faut chercher des solutions. Il demande que les Éphésiens soient fortifiés puissamment dans leur être, l'homme intérieur. Nous verrons pourquoi. Et deuxièmement, il demande que Christ habite dans leur cœur. Est-ce qu'ils ne sont pas là déjà? Est-ce que Christ n'est pas là déjà? Et il demande à Dieu que Dieu aide les Éphésiens en se renseignant et être fondés dans l'amour de Dieu. Oh, verset. Ce sont ces trois choses principales que Paul est en train de demander pour que son Père le fasse. Mais Paul Si nous les voyons, nous avons vu déjà l'image, nous ne rentrons pas encore là-bas. Paul s'adresse, sa prière, son intercession, dans la qualité de Dieu qu'il appelle Père. Il demande à son Père, qui est le Dieu. Pourquoi il le dit? Pourquoi il le fait? C'est parce qu'il a compris que c'est ce Dieu le Père qui a cet amour que nous ne pouvons pas comprendre, qui a fait en sorte que son plan arrive à la réalisation. Le plan de longtemps. Il a tant aimé le monde. Mais le monde était devenu corrompu. Le monde est égal, toi et moi. Il nous a aimés tant. Et c'est un amour qui dure dans l'éternité. Ça n'a pas de commencement. Paul a compris ça. Et Paul était persécuteur de l'Église. L'Église est égale de personnes. Ceux qui avaient cru en Christ, c'est ça l'Église. Il avait compris ça. Et Paul, il avait compris que Dieu le Père, c'est lui le fondateur de la mission. C'est l'amour de Dieu qui a engendré la mission, cette mission qui a fait en sorte que Jésus vienne nous sauver, que Jésus vienne mourir sur la croix. Alors, en premier lieu, parce que Paul a compris cela, il faut que nous suivons, parce que Paul a compris cela, cet amour ardent de Dieu, le Père, qui a fait que même il n'a pas épargné son fils, il a lâché son fils pour venir mourir sur la croix. Nous voyons maintenant la conséquence de Paul. Il prie, mais comment? Il fléchit ses genoux devant le Père. Fléchir, dans toute l'humilité. Et prions pour que le Seigneur puisse aussi fléchir nos cœurs maintenant, pour que nous puissions comprendre la profondeur, la largeur, la hauteur et tout ça, la longueur de l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est avec humilité que je viens devant toi. Parce que quand j'étais en train de lire, préparer et penser à ma vie propre, Seigneur, de ton amour, cet amour profond, j'ai remarqué que beaucoup de fois, je ne comprends pas la vérité dans cet amour. Je ne comprends pas la vérité de cet amour ardent. Seigneur, parle-moi. Tu m'as déjà parlé. Continue à parler dans mon cœur. Parle au Seigneur, à ton peuple. Nous ne sommes pas ici pour venir perdre notre temps. Mais nous sommes ici pour que nous puissions progresser. Écoutez ta voix pour le progrès de notre vie et la communion avec toi pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi Paul dit au verset 14. Mais comment nous allons continuer notre réflexion ici? Et quand nous avons des réunions, on prépare quand même un plan pour ne pas aller de gauche à droite et puis après un certain temps, ne pas rien faire. Alors, nous avons quand même un plan pour cette réflexion en rapport avec le verset que nous venons de lire. Alors, nous pouvons, en résumé, nous pouvons bien dire que Paul nous parle ici d'une fortification dans notre être intérieur. Et excusez-moi que je prenne un peu mon plan. Je ne voudrais pas vous mentir aussi que j'ai... que j'ai un plan alors que je ne l'ai pas. Non. C'est du mensonge. Ce serait alors du mensonge. OK. Dans notre plan, nous allons voir, nous allons parcourir en premier lieu que l'amour de Dieu est notre attitude envers cet amour de Dieu, envers Dieu. En deuxième lieu, nous allons voir l'amour de Dieu est notre réponse. En troisième lieu, nous allons voir l'amour de Dieu est l'amour de Christ. C'est ça qui va être comme une fondation dans notre marche. Mais comme vous le verrez, dans nos diapos, ça sera un peu différemment intitulé. Oh, c'est tout? Donc, je perds mon temps aussi, hein? Ah, ça, c'est trop loin. Ah, non, je pense que je laisse d'abord hein, pour que nous ne puissions pas perdre beaucoup de temps et la technologie aussi. Alors, ça va être intitulé. Notre premier point, tous ces trois points sont intitulés différemment si c'était ici dans notre diapo que la connaissance, le premier point est celui-ci. La connaissance de l'amour de Dieu fait fléchir les genoux. La connaissance de l'amour de Dieu fait fléchir les genoux. Et deuxième point, la connaissance de l'amour de Dieu implique une expérience de l'amour de Christ. Et troisième point, la connaissance de Dieu, la connaissance de l'amour de Christ maintenant, fait progresser notre vie jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est profond, mes chers frères et sœurs. Et enfin, comme quatrième point, ce sera juste la doxologie que nous lisons ensemble. Doxologie de la prière de Paul. Ça, c'est notre plan. Ce que nous avons, comment nous allons poursuivre notre réflexion. Nous avons vu que Paul a demandé à Dieu les choses. Nous avons vu que Paul était intéressé parce que lui-même comprenait ce qu'il demandait à Dieu. Il demande ça en faveur des autres. Et si nous pouvons reculer un peu, pour voir. Le premier point qu'il demande, c'est être fortifié dans l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur pour que les autres, les Éphésiens, soient fortifiés dans leur être, dans leur homme intérieur. Que cela signifie? Mais il ajoute par le Saint-Esprit. Cet être rendu conforme à Jésus. Donc, quand on est fortifié, ça laisse de côté le découragement. Parce que Paul était en difficulté et les Éphésiens étaient concernés avec la difficulté de Paul. Et ils avaient beaucoup de choses qui le dérangeaient. Alors, Paul demande pour que l'être intérieur, l'homme intérieur de les Éphésiens soient fortifiés, mais puissamment. Et il est dit d'abord dans le chapitre précédent de ne pas se décourager de ses afflictions, mais d'être fortifiés pour ce qu'ils étaient. Mais maintenant, l'homme intérieur dont Paul nous parle, c'est quoi? L'homme intérieur désigne la partie spirituelle et morale de l'homme, le siège de ses sentiments et de sa volonté. C'est son moi. Donc, quand bien même nous parlons de notre moi, qui suis-je? Vous pouvez seulement me comprendre qui je suis à partir de mon homme intérieur quand il commence à réagir avec vous. Quand je parle avec vous, mes agissements, ça c'est l'homme intérieur, la partie invisible. Et c'est cette partie invisible qui remplit notre homme extérieur. Mais Paul est en train de prier ici que Dieu aide les Éphésiens à fortifier leur être, leur homme intérieur. Et parce que cet homme intérieur, c'est cet homme qui motive nos choix et qui dicte notre conduite. Quand je me conduis d'une certaine manière, c'est à partir du fond, ce qui est invisible. Comprenons cela. Et Paul a encore demandé que Christ habite dans le cœur des Éphésiens. Mais pourquoi Paul demande ça? Si nous pouvons voir habiter, peut-être que nous pouvons le comprendre d'une certaine manière, comme s'il est là. Être, ce n'est pas habiter. Nous sommes ici, donc ici à l'oasis, à la corde, dans ce milieu. Mais si nous allons donner notre adresse, quand on nous demande notre adresse, là où nous habitons, nous n'allons pas dire l'adresse de l'oasis. Habiter, c'est demeurer. Où est-ce que je demeure? C'est ici, nous sommes ici, c'est en quelque sorte comme en visite. Nous sommes ici en visite, comme nous allons à l'hôpital, nous allons dans les hôtels quand nous sommes en train de voyager, et après nous quittons, nous retournons. Mais demeurer est différent de être ou visiter. La prière de Paul est que comme Christ en lui habite dans son cœur, habite dans son être intérieur, il voudrait que Christ habite dans le cœur des Éphésiens et non pas Christ visite le cœur des Éphésiens. Habiter continuellement. Et quelqu'un qui habite continuellement quelque part, c'est ou bien il est enfant dans la maison où il habite, où ils sont conjoints, ou par un contrat d'adoption, ou par un contrat qui est là, et quelqu'un ne viendra pas. Si je parlais, Lise, viens habiter, c'est toi qui vas commencer à habiter dans ma maison. Et ça sera vraiment, je ne sais pas comment on va comprendre ça. Lise va se poser la question. Comment? Pourquoi? Pourquoi? Mais Paul s'intéresse à ce que Christ habite dans le cœur des Éphésiens. C'est ça qui nous dit qu'à cause de ça, Paul comprend cela, que c'est très important d'être fortifié dans son homme intérieur, d'être fortifié parce qu'il y a tant de choses qui peuvent nous distraire pour faire que le Christ ne vienne que nous visiter. Et Paul a ajouté cette demande encore, que l'amour de Christ est notre progrès spirituel. Que cela signifie? Paul a voulu que Si les Éphésiens pouvaient comprendre, nous pouvons seulement voir ça. Vous pouvez me suivre en lisant peut-être si nous pouvons y arriver. Ouais. Cet amour de Christ. Et comment Paul, lui, définit cet amour de Christ? C'est à cela. Donc, il demande à Dieu, comme dans sa compréhension, il a compris que l'amour de Dieu qui a donné Christ pour venir mourir à la croix, cet amour de Christ, l'amour de la croix, c'est un amour éternel. Mais maintenant, cet amour est large. Il fallait que les Éphésiens comprennent la largeur de cet amour. Largeur. Comment? Je ne sais pas si pourquoi, parce que c'est quand même sinon intéressant que nous puissions voir. Peut-être que je peux me référer de cette croix. J'avais une croix dans le coin, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'avais une croix de l'autre côté. Mais il dit que l'amour de Christ, la tribu, il veut comprendre, il veut que les Éphésiens comprennent la largeur de cet amour. Donc, si nous pouvons voir le bras de la croix, c'est comme Christ sur la croix qui étend ses deux bras qui appelle « Venez à moi ». Et il appelle sans distinction. Donc, l'amour de Christ peut être rapproché à la barre transversale de la croix, avec les bras de Christ qui sont ouverts comme pour accueillir toute l'humanité. Et cette largeur évoque ainsi l'universalité de l'amour de Christ, et donc c'est l'amour de Dieu qui cherche tout un chacun. C'est une première chose utile, très utile, parce que cet amour ne fait pas de distinction. C'est tellement large. Il y a la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. C'est un amour inclusif. Et pensons-y, parfois combien nous sommes exclusifs alors que l'amour de Dieu est large. Ça inclut tout le monde. L'amour de Dieu, pour la deuxième fois, l'autre qualificatif, l'amour de Dieu est long. Et la longueur. Si nous voyons cette croix de ce côté ici, c'est la longueur. Il est patient. Il était là cloué, du bas en haut. C'est la patience. L'amour de Christ, fondé dans l'amour de Dieu, se réjouit de ce qui est bon dans chaque personne. Mais c'est déjà très bien. Mais l'amour de Dieu dépasse même cela, ce qui est bon dans la personne. Pas seulement ça, mais ça dépasse. C'est une expérience, l'amour de Dieu, c'est une expérience de la patience de Dieu qui nous aime même quand nous sommes mauvais. C'est patient. Si nous pouvons aller très vite, cette patience de l'amour de Dieu, c'est que quand bien même au début, je ne comprenais pas cet amour. Je ne m'étais pas donné à Dieu, mais Dieu m'a poursuivi là où j'étais. Quelle patience! Si moi, je pouvais comprendre cette patience de l'amour de Dieu, de Christ, qui est long dans le temps. Combien il a commencé, depuis quand il a commencé à me poursuivre pour le progrès? C'est l'accompagnement. Dieu nous accompagne partout où nous sommes. Il ne vient pas crier sur nous. Il ne veut pas dire, mais non, moi, maintenant, va-t'en, je ne veux plus de toi. Mais il nous accompagne. Et l'amour de Dieu, il parle de la qualification, de la profondeur. Cette dimension de la profondeur, c'est l'amour avec un A majuscule. C'est l'amour de Dieu qui est profond. C'est la source des autres amours que nous pouvons avoir. Mais cette profondeur, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi nous pouvons dire Dieu est amour. Donc, dans Dieu, Dieu, c'est l'amour. Donc, quand nous parlons de Dieu, si nous cherchons Dieu, je ne sais pas comment, Dieu, c'est l'amour. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le voir. Il est esprit. Et cet amour qui est profond, Paul voudrait que nous puissions comprendre la profondeur de cet amour. Et c'est comme cela que Jésus pouvait dire, comme mon Père m'a aimé, moi aussi, je viens vous aimer. Si nous comprenons cela, la profondeur, cette profondeur, Dieu lui-même qui est amour, c'est cet amour que nous allons apporter auprès des autres. Mais sans compréhension, nous ne saurons pas. Nous pouvons tant essayer, mais ça ne sera pas l'amour de Dieu, avec l'amour avec A majuscule. Ça sera l'imitation de l'amour avec ces A minuscules qui de soi toujours. Ah, comme le Père m'a aimé, ça c'est dans Jean 15, verset 9. Et Paul veut encore comme quatrième qualificatif que nous puissions comprendre, que les Éphésiens puissent comprendre la hauteur. Et nous pouvons voir la hauteur de la croix jusque là. C'est aussi une invitation à reconnaître que l'amour de Dieu dépasse. Cela nous rappelle notre mission sur terre, ça dépasse. Cet amour qui, à cause de cet amour, à cause de cette compréhension, peut nous envoyer à aller faire ce que les autres pouvaient penser que vraiment c'est de l'impossibilité. Et cet amour qui est dans l'expérience, nous pouvons prendre cette métaphore d'un bébé qui est né dans une famille. Cet amour, la hauteur de l'amour du Seigneur, il est là, même quand nous ne méritons rien. Même quand nous sommes là encore, pas compris cet amour, mais Dieu est là, il prend soin de nous. Il prend soin de nous comme un bébé. Il ne connaît encore rien faire. J'ai ma petite fille qui est née, qui est à Calgary, que je ne vois pas souvent, c'est juste sur le WhatsApp. Alors, les parents disent, mais il pleure la nuit, mais ce sont les parents qui se réveillent. Ils sont là parce qu'ils veulent que leur bébé soit en bonne santé. Si j'étais là, j'allais le faire aussi parfois, peut-être dormir là-bas pour les aider un peu. Mais en attendant, en ayant cette espérance qu'un jour, ce bébé va grandir, qu'un jour, ce bébé va être responsable, qu'un jour, ce bébé va parler, me dire, « Grand-mère, je t'aime. Papa, je t'aime. » Mais il faut de l'accompagnement. Quand bien, il faut l'aimer, quand bien même, il faut changer la couche qu'il vient de salir. C'est mauvais, ça sent mauvais, mais il faut l'aimer. Parce que sinon, on ne le fera pas. Quel amour dans la hauteur. Et c'est comme cela que Christ ayant compris le quatre qualifications, il pouvait dire, demander à Dieu. Si les Éphésiens pouvaient comprendre cela, ça, c'est la plénitude de Dieu en eux. Donc, leur cœur sera plein de Dieu et Christ va demeurer en eux parce que Christ sera à l'aise. Et comment cela arrive? Seulement quand nous progressons dans notre vie, quand Jésus prend toute la place de notre cœur sans toutefois laisser de l'espace pour autre chose. C'est un mystère. C'est un mystère. Alors pour Paul, si cela arrive, pas si cela arrive, pour Paul, cela doit arriver. Ça doit arriver. Parce que quand ça arrive, la plénitude, c'est comme ça que nous sommes enracinés. Donc, il y a des racines dans le sol de l'amour. L'amour, c'est le sol. Et si notre cœur est enraciné dans le sol qui est l'amour, et cet amour en majuscule qui est Dieu, nous pouvons dire alors que nous produirons maintenant le fruit qui se trouve en Galates chapitre 5, que nous lisons souvent à partir du verset 22. Si nous sommes enracinés, nous ne pouvons pas commencer par avoir la patience sans avoir l'amour. Sans cet amour de Dieu, nous ne pouvons pas commencer. Nous ne pouvons pas commencer à demander, Seigneur, donne-moi la patience. Ça ne viendra pas. Parce que nous sommes incapables de produire la patience en nous-mêmes. La bienveillance, la joie, c'est comme cela que même Michel avait bien expliqué, que cette joie viendra quand nous allons comprendre, quand nos cœurs sont enracinés dans l'amour et l'amour de Dieu. C'est comme cela que nous allons produire la paix tout autour de nous. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout ça vont venir à cause de l'amour. Et l'amour, pas cet amour imité, qui de soi, mais cet amour de Dieu qui est manifesté en Christ et Christ qui a donné aussi sa vie pour mourir à la croix. Et Paul, dans toute humilité, il est en train de prier au Père parce que lui est devenu membre de la famille de Dieu. Paul est devenu membre de la famille de Dieu. C'est comme cela que nous pouvons lire, quand nous lisons en Jean, au chapitre 1, le verset 12, qui nous dira que à celui qui l'a reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cela nous permet d'appeler notre Dieu, le Abba, Père. Nous sommes enracinés, nous sommes fortifiés, nous sommes pleins de cet amour. Et cet amour produit en nous tous les fruits possibles. Et d'ailleurs, Paul dit que Dieu fera au-delà même de cette liste qui se trouve en Galates 5. Il va faire au-delà de ses fruits. Mais la question qui se pose, que je me pose moi, si la question m'était demandée de savoir ce que moi je veux. Qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Pour moi-même, pour mon mari, pour mes enfants, pour les autres. Salomon avait demandé la sagesse. Oui, la sagesse est très importante. Mais en méditant ces passages, si on me posait la question, moi, de savoir qu'est-ce que moi j'ai besoin, je dirais comme Paul, Seigneur, donne-moi l'amour de Dieu. L'amour à ma jusqu'il. Et c'est ça qui pouvait nous permettre d'avoir la fête de Saint-Valentin qui va être agréable. Ce ne sera pas sur nos lèvres seulement, je t'aime chérie, voilà les fleurs, et voilà, et après, ce n'est plus ça. Ça, c'est l'amour qui de soi. Mais l'amour qui de soi, quand nous avons l'amour de Dieu, c'est l'amour qui pardonne, l'amour qui est patient, l'amour qui est bienveillant, l'amour qui a la joie, l'amour qui a la paix, l'amour qui a la bonté, l'amour qui a la fidélité, l'amour qui a la douceur, l'amour avec la tempérance. Et Paul dit que ça va dépasser la liste des Galates. Verset 5. Je pense que nous avons bien cheminé avec Paul dans sa prière pour les Éphésiens, demandant que Dieu le Père donne son amour aux Éphésiens pour qu'ils parviennent à produire le fruit. Alors, si nous pouvons nous mettre debout, et nous savons ce que nous pouvons demander à notre Dieu pour que nous soyons capables, nous, ici, l'Église de l'Oasis, pour que nous soyons capables de produire le fruit au-delà pour la gloire. Et dans le verset, ça dit même que pour la gloire de l'Église, nous n'allons pas aborder tout cela, peut-être qu'on le verra après, pas maintenant. Pour la gloire de l'Église et pour la gloire de Christ, ne commençons pas à demander la patience ou les fruits. Commençons par demander l'amour de Dieu qui est le sol fertile et qui va nous rendre fertiles toute la vie. Et Christ va demeurer, pas nous visiter, mais Christ va demeurer en nous. Et ces fruits-là vont être permanents dans notre vie spirituelle. Alors si nous pouvons lire, si nous pouvons nous mettre debout et lire le verset 20 et 21, c'est là la doxologie. Il termine là pour savoir que nous ne sommes pas capables, mais Dieu est capable par son Saint-Esprit. Alors, lisons ensemble. On commence. Or, l'amour de Dieu, c'est grand. Et si nous pouvons voir aussi l'image là-bas, il y a des petits cœurs qui sont là. Et ces petits cœurs-là, c'est rempli de l'amour. Et c'est l'amour, c'est ce que nous voulons, Dieu veut. Nous sommes en train de prier pour ça, pour que le Seigneur nous remplisse de son amour. Et comme cela, nous ne serons pas tièdes, comme Marc l'a dit, sinon nous serons vomis. Sinon nous serons vomis. Soyons ou froids comme dehors, formant la glace,
ou chaud comme en Afrique. Alors, pour la gloire de l'Église, et tout un chacun se sentira invité à manifester l'amour de Dieu et cet amour profond. Amen. Excusez-moi pour le PowerPoint. Vraiment, ça m'a déçu. C'est ça, hein? Ça déçoit. Donc, alors, nous allons terminer, je vous en prie, par la prière. Nous avons fait la doxologie. Seigneur, permets qu'on porte la prière de nous enraciner dans l'amour de Dieu pour que nous soyons capables, oh Seigneur, de produire ses fruits. Viens, ô Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables à nous-mêmes. Transforme.